Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Je déteste te dire au micro quand je parle.
Ah, désolé.
C'est très difficile. Non, ça va.
Oh, je ne vais pas vous torturer trop longtemps.
Voilà, je vous écoute.
Ouais. C'est une voix qui nous manque déjà. Michel Serres, disparu il y a quelques jours à l'âge de 88 ans, laisse le souvenir d'un homme magnifiquement chaleureux et lumineux. Philosophe, académicien, pédagogue, érudit, aussi curieux des sciences et des nouvelles technologies que des lettres et de la poésie, ce voyageur infatigable de la pensée est l'auteur d'une œuvre majeure de 80 livres environ. Très concerné par l'avenir écologique de la Terre et par les générations à venir, Michel Serres avait connu récemment un immense succès avec son ouvrage intitulé « Petite poussette », où il s'adressait à la jeunesse, caractérisé par son habileté à envoyer des textos avec ses pouces, d'où ce titre malicieux aux éditions du Pommier. Avait suivi un autre manifeste, paru sous le titre « C'était mieux avant », où justement Michel Serres démontrait l'inverse, preuve à l'appui, un livre sérieux, documenté et en même temps écrit avec une grande simplicité, nourri de bon sens et accessible au plus grand nombre. Il y a un peu plus d'un an, à l'occasion de cette publication, Michel Serres nous avait reçus chez lui, dans une jolie maison à la périphérie de Paris, entourée de ses livres. Notre conversation avait commencé avec bonne humeur, autour de cette nécessité de tenir le micro, et s'était ensuite poursuivie dans le plus grand bonheur. Cet entretien n'avait jamais été diffusé dans son intégralité. Aujourd'hui, ce sera le cas, avec la joie d'entendre à nouveau la voix chantante et rocailleuse de Michel Serres. Hommage. Bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Vous venez de publier ce petit essai, petit peut-être dans la longueur, mais très dense. C'était mieux avant, sous-titré « 10 grands papas ronchons ne cessent de dire à petite poussette, chômeuse ou stagiaire, qui paiera longtemps pour ses retraités. C'était mieux avant, or cela tombe bien, avant justement j'y étais. » Donc, mon petit doigt me dit que c'était mieux avant, c'est plutôt une formule ironique de votre part.
Bien sûr, c'est une formule ironique qui consiste justement à dire le contraire. Oui. C'est-à-dire, quand je dis « j'y étais justement avant », mais ça tombe bien en effet, puisque avant, par exemple, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Zedong, Pol Pot, Ceausescu, enfin, rien que des braves gens. Et ces braves gens ont réussi l'exploit, disons, toujours avant, de produire pendant la Seconde Guerre mondiale autour de 40 à 45 millions de morts, et puis, par leurs crimes d'État, plus de 10 à 20 millions, vous voyez. Et par conséquent, quand on parle des attentats aujourd'hui, des guerres civiles, etc., on a raison, et je m'incline devant ces victimes avec beaucoup d'empathie, mais au point de vue numérique, si vous voulez, au point de vue quantitatif, il n'y a pas photo, comme on dit, vous voyez. C'est-à-dire, le nombre de victimes à cette époque-là a été largement supérieur à tout ce qu'on a connu. Et du coup, ce qui m'impressionne le plus dans le laps de temps qui nous sépare, c'est-à-dire pratiquement une grande partie de ma vie, c'est le fait que pendant 60 ans, nous avons été en paix. Alors on parle des 30 glorieuses, vous connaissez ça. Moi j'aimerais parler des 60 paisibles, vous voyez. C'est-à-dire, je suis sûr, parce que j'ai regardé les chiffres de près, que ces 60 ans de paix sont absolument uniques dans l'histoire. On n'a jamais connu une période de temps aussi longue où on vit en paix, vous voyez. Voilà.
Mais comment se fait-il que tout le monde dise c'était le bon temps avant?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison est subjective, bien entendu. Quand j'étais jeune, je faisais de la très haute montagne. Je montais jusqu'à 5 ou 6 000 mètres. Mais maintenant, c'est fini. Donc pour moi, subjectivement, c'était mieux avant. Alors, beaucoup de gens pensent que le monde est en harmonie avec leur propre corps, vous voyez. Bon, c'est vrai que la vieillesse, évidemment, c'est un peu moins bien du point de vue physique que la jeunesse, bon. Bon, mais ça, c'est subjectif. Il y a aussi des phénomènes de type opinion publique, si vous voulez. C'est-à-dire, il est vrai que, sans vouloir vous vexer, si vous voulez, les médias propagent essentiellement les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, les médias disent il y a eu des morts en Ouganda, ils disent il y a eu des attentats à Budapest, il y a eu ceci et cela. Et bien entendu, cette suite, si vous voulez, de nouvelles pose un voile de mélancolie sur tout l'endroit où elles sont propagées, vous voyez. Et par conséquent, d'une certaine manière, il y a une responsabilité de ce type de mauvaises nouvelles, vous voyez. Or, chaque fois que je dis ça à un journaliste, il me répond avec raison que le fait que un train arrive à l'heure, c'est pas une nouvelle. La nouvelle, c'est qu'il n'arrive pas à l'heure. Voyez. Et donc, il y a un côté négatif, si vous voulez, dans les médias, qui peut être occasion de ce fait qu'on pense qu'on est dans la violence pure. Vous voyez. Mais il y a d'ailleurs un travail qui a été fait par un Américain qui vient de paraître, vous voyez, qui dit en 1000 pages, avec des statistiques, des courbes, avec des calculs, avec des sondages, etc. Il dit en 1000 pages ce que je dis en 6 pages, vous voyez. Il dit que, précisément, le chiffre des morts par violence et terrorisme ne cesse de baisser. Ne cesse de baisser. C'est-à-dire, nous sommes de plus en plus en paix. Et personne ne pense ça. Voilà. C'est étrange.
Et si vous avez eu cette réaction, parce que c'est un livre fondé, mais un livre aussi très malicieux,
oui,
où on
sûr.
Sourit beaucoup.
On rit beaucoup, oui, oui.
C'est parce que vous aviez l'impression que votre génération, Michel Serres, vous êtes né en 1930,
oui,
devenait vraiment trop ronchon, ou parce que c'est aussi un geste envers cette nouvelle génération qui a l'air un peu déprimée, qui se dit, mon Dieu, dans quel monde je vis, puisque c'était mieux avant, et on ne cesse de me le répéter.
Et, oui,
et vous avez envie de leur dire non, justement.
Ce n'est pas vrai, bien sûr, ce n'est pas vrai.
C'est pour les jeunes, donc c'est pour les petites poussettes,
oui,
et les petits poussés, cette génération digitale.
Vous avez raison de dire ça, parce que c'est pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est pour mes étudiants. Au fond, avec le métier que j'ai fait, j'ai toujours fréquenté la jeunesse. C'est pour ça que vous me voyez si jeune. Bon, et j'ai une sorte d'affection pour eux, et ils sont dans des situations difficiles, parce que le marché du travail n'est pas très 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 bon aujourd'hui, le chômage est toujours un peu en train de croître, les nouvelles technologies probablement vont détruire plus d'emplois qu'elles en créeront, et ainsi de suite. Par conséquent, il y a des difficultés à venir pour cette génération. Alors, il est de notre devoir de l'encourager et de tenter pour elle de laisser un monde meilleur. Et cette espèce d'opinion publique toujours pessimiste. Remarquez, il faut dire aussi que les Français sont spécialement doués pour ça.
Pessimisme ?
Oui, c'est-à-dire quand on dit optimisme en France, on a toujours l'impression de dire c'est un imbécile et un niais, vous voyez. Alors, je me défends souvent en disant, écoutez, je n'ai pas dit que le monde était bon. Je n'ai pas dit que le monde était bon. Je suis conscient, comme vous, qu'il y a des attentats, qu'il y a des guerres civiles, qu'il y a un problème d'émigrés considérable, etc. Je n'ai pas dit que le monde était bon. Non, j'ai dit que l'état du monde aujourd'hui, en comparaison chiffrée avec l'état du monde il y a, disons, plus d'un demi-siècle, est considérablement amélioré. Regardez par exemple, un autre exemple, l'espérance de vie. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700? C'est gigantesque. Et il y a eu des espérances de vie qui duraient 40 ans, 45 ans. Il y a un roman de Georges Sand où elle parle d'un paysan de 45 ans qui se considère comme un vieillard. Vous voyez. Et aujourd'hui, il y a eu une croissance verticale de l'espérance de vie qui a fait que nos compagnes, par exemple, en France, ont une espérance de vie de 84 ans. Vous voyez. Ça change complètement la donnée de la société. Vous voyez. Et ça, c'est une croissance dont on ne peut pas dire que c'était mieux avant, puisque je n'aurais pas été là pour vous le dire.
7 de Michel Serres de l'Académie française, lu par l'auteur.
Nous, adultes, avons transformé notre société du spectacle en une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse l'école et l'université. Pour le temps d'écoute et de vision, la séduction et l'importance, les médias se sont saisis depuis longtemps de la fonction d'enseignement. Critiqués, méprisés, vilipendés, puisque pauvres et discrets, même s'ils détiennent le record mondial des prix Nobel récents et des médailles Field par rapport au nombre de la population, nos enseignants sont devenus les moins entendus de ces instituteurs dominants, riches et bruyants. Ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, la lecture ou l'écriture au pouce des messages, la consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent ni n'intègrent ni ne synthétisent comme nous leurs ascendants. Ils n'ont plus la même tête. Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toute personne. Par GPS, en tout lieu. Par la toile, à tout le savoir. Ils hantent donc un espace topologique de voisinage, alors que nous vivions dans un espace métrique référé par des distances. Ils n'habitent plus le même espace. Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des années 1970. Il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace. Né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus sous soins palliatifs la même mort. N'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il ou elle connaît autrement. Il ou elle écrit autrement. Pour l'observer avec admiration, envoyer plus rapidement que je ne saurais jamais le faire de mes doigts gourds, envoyer, dis-je, des SMS avec les deux pouces, je les ai baptisés avec la plus grande tendresse que puisse exprimer un grand-père, petite poussette et petit poussé.
C'était mieux avant, dans cette centaine de pages, vous argumentez le fait que non, ce n'était pas forcément mieux avant. Oui. Et effectivement, vous abordez, Michel Serres, la question des guerres, la question de la santé, de l'hygiène, des femmes. Selon vous, dans quel domaine les progrès ont été les plus spectaculaires ?
Sur trois domaines, je crois. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la paix. Vous savez, par exemple, que dans l'histoire précédente, l'histoire n'a jamais passé plus de 5% en temps de paix. Il y avait 95% en temps de guerre. Et je crois que nous sommes la première génération pour laquelle les chefs d'État n'ont jamais connu la guerre. Ça n'était jamais arrivé. Regardez, Chirac a connu la guerre. Mitterrand a connu la guerre, mais à partir de là, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron n'ont jamais connu la guerre. Ça n'était jamais arrivé, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a la paix, d'autre part, il y a la santé. Je veux dire par là que dans les années 35-40, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un médecin recevait dans son cabinet 10 malades, il y avait 3 syphilitiques, 3 tuberculeux et 2 autres. Bon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de la pénicilline, il n'y avait plus que les deux autres, vous voyez. Donc il y a eu une sorte de bond en avant de la médecine qui a été gigantesque. Et en particulier sur ce qui concerne la douleur. On ne se rend plus compte de l'armada que nous avons à notre disposition, comme antalgique, comme analgésique, comme anesthésique, etc., qui fait que un médecin peut rencontrer dans son cabinet un homme ou une femme de 60 ans qui n'ait jamais souffert. Or, ça n'a jamais existé. Vous voyez ? Donc, à certains égards, si on regarde ces déterminations-là, on s'aperçoit que nous vivons une période exceptionnelle dans l'histoire. Et nous n'en avons pas conscience.
Et le troisième point ?
Alors, le troisième point, ça consisterait précisément à parler de la démographie, sans doute. C'est-à-dire, et ça, c'est un problème un peu plus délicat, quand je suis né, cher ami, vous me direz que c'est un néolithique tardif, il y avait moins de 2 milliards de personnes sur la planète, moins de 2. Est-ce que vous connaissez une vie humaine au cours de laquelle la démographie mondiale s'est multipliée 2 fois par 2, 2 fois de 4 fois de 8. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui 7 milliards et quelques. Vous voyez, alors là, il y a une coupure telle que le problème devient important. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu un troisième élément sur lequel vous m'interrogez, c'est le suivant. Disons, au début du XXe siècle, nous étions en France et dans les pays analogues, disons, hein, Allemagne, Angleterre, Italie, etc., nous étions entre 60 et 68% d'agriculteurs. Aujourd'hui, en France, je connais le chiffre, nous sommes 3,6% d'agriculteurs. La rupture est gigantesque, c'est-à-dire que depuis l'invention de l'agriculture, nous étions tous des paysans. Je crois que jusqu'en 1820-1830, il y avait 5% de l'humanité en ville. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, il y a très très peu de paysans. Il y a eu une sorte de rupture au XXe siècle incroyable dans toute l'histoire humaine, et même la préhistoire humaine, vous voyez ?
Mais ça, c'était mieux ou pas, alors ?
Alors, je crois que... Il y a quelque chose de mieux concernant la nourriture, c'est-à-dire la nourriture est beaucoup plus régulée, préservée, contrôlée aujourd'hui qu'elle n'avait jamais été autrefois. Parce que aussi bien tout le monde dit « Ah, à cette époque-là, nous connaissions la provenance ». Et c'est vrai qu'on connaissait la provenance, mais les aliments étaient très mal conservés. Vous voyez. Donc on était assez malade de la nourriture. Je dis souvent... que quand on faisait son propre jambon, on avait un couteau pour enlever les vers du jambon au moment de la consommation. Alors je dis, ah, c'était au moins la biodiversité.
Donc ça, c'était pas forcément mieux.
Non.
Alors, on l'a dit, c'est aussi un livre malicieux et par exemple, ou plus exactement, un contre-exemple de C'était mieux avant.
Oui.
Je vous cite, Michel Serres. Avant, de guerre ou de maladie, de misère ou de souffrance, on mourait plus jeune, c'était beaucoup mieux. Pourquoi ? Mieux parce qu'au moment du mariage, les conjoints ne se juraient fidélité que pour 5 ans de moyenne, oui. Alors qu'aujourd'hui, la statistique dit qu'ils se la disent pour 65 ans, galère.
Alors, galère, je dis que ça pourrait, évidemment. Mais, et en effet, l'augmentation de l'assurance de vie a changé complètement les données, mais même le sens des mots. On dit toujours mariage, mais bon, c'est le même mot. Mais est-ce que c'est la même chose ? Vous voyez, et évidemment, quand les gens se marient à 30 ans et que l'espérance de vie était à 40 ans, ben évidemment, la promesse de mariage était extrêmement courte. Mais aujourd'hui, lorsque vous mariez à 25 ans, ben, si l'espérance de vie est à 80, ça fait une promesse de fidélité beaucoup plus longue.
Donc il faut beaucoup s'aimer.
Alors, oui, enfin, ça change complètement la donnée du mariage. Tenez, je n'ai pas dit dans mon livre un autre exemple là-dessus. Aujourd'hui, puisque l'espérance de vie est autour de 80, eh bien, je vais mourir, moi, assez vite maintenant, et je vais léguer ce qui me reste d'argent à mes enfants. Ah oui, mais mes enfants sont à la retraite. Et donc, si vous voulez, comme l'héritage aujourd'hui se passe entre les 80 et les 60, eh bien, tout l'argent du patrimoine reste dans les classes non productives. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ? Vous voyez ? Donc, les déterminations de l'espérance de vie sont considérables à la fois pour la finance et pour les institutions. Vous voyez ? Voilà.
Alors, si ce n'était pas mieux avant, vous ne dites pas pour autant, Michel Serres, à juste titre, que c'est mieux aujourd'hui. Par exemple, on est tous conscients aussi des problèmes écologiques qui sont plus importants qu'il y a 70 ans, certainement.
Nous en avons beaucoup plus conscience. C'est-à-dire, il est probable qu'ils étaient très importants à cette époque-là, mais il y a une détermination qui a été capitale, c'est l'augmentation du nombre des habitants. Un monde de 8 milliards d'habitants ne pollue pas son environnement comme un monde de 1,5 million d'habitants, bien entendu, vous voyez. Bon. Donc les problèmes se multiplient, et les problèmes se multipliant, nous n'avons pas beaucoup changé de conduite. Voilà. Alors d'ailleurs, là-dessus, j'avais déjà écrit deux livres, un qui s'appelle « Le contre-naturel », l'autre qui s'appelle « La guerre mondiale », et par conséquent, j'étais parfaitement conscient des problèmes en question, vous voyez. Donc, je ne dis pas que le monde est bon, et à certaines cigarettes, il est en danger, mais mon problème, je le répète, est justement de comparaison.
Et effectivement, je pense que on peut comprendre votre livre avec cette phrase, quand vous dites que l'éloge du progrès, c'est bien, mais que le progrès, finalement, se freine lui-même.
C'est pas qu'il se freine.
C'est ce que vous écrivez.
Oui, oui, oui. Il a, je voulais dire par là qu'il a un prix. Il a un prix. C'est-à-dire que, à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, on pensait qu'on allait vers un progrès constant, mais que ce progrès était purement et simplement positif. Ben, pas tout à fait. Je reprends l'exemple de l'espérance de vie. L'espérance de vie croît. Alors, bravo! Eh oui, mais faut pas oublier quand même que sur les gens qui ont entre 70 et 85 ans, il y a 20% d'Alzheimer, par exemple. Et que la sécurité sociale est en train de payer la moitié de son budget pour les dernières années de la vie. Par conséquent, ça pose un problème social et financier considérable. Donc, vous voyez, un, le progrès, et deux, le prix du progrès. Mmh. Voilà. Ce que je dis que, lorsqu'au 18e, on faisait une sorte de philosophie du progrès constant et positif, on se trompait dans la mesure où on ne mesurait pas le prix de certains progrès. Voilà.
Mmh. Et autre petite réserve, il me semble avoir lu dans cet essai qui, encore une fois, revient sur « Non, ce n'était pas mieux avant », quelque chose quand même sur « Avant, on vivait en collectivité et oui. Aujourd'hui, il y a une forme de solitude qui est oui. Plus importante. »
J'ai voulu écrire quelques pages pour dire qu'il y avait quand même des choses positives et que nous avons perdu. Mais voilà pourquoi. Et il est vrai qu'à mesure qu'il y a eu une bascule de culture, une transformation complète des mœurs, il est vrai que beaucoup d'appartenances d'autrefois se sont mises à disparaître un peu, vous voyez. C'est-à-dire, la paroisse, c'est plus grand-chose, la municipalité, c'est plus grand-chose. Bon. Et du coup, on a inventé et est arrivé à maturité l'individu. L'individu sans trop de références, ni à sa patrie, ni à sa nation, ni à sa famille, ni à sa paroisse, ni à sa ville, etc. Et l'individu est devenu un peu seul. Alors, un des grands problèmes du monde contemporain, c'est précisément que ces individus reconstruisent des appartenances, vous voyez ? Alors, on voit ça apparaître peu à peu, un peu partout, mais les anciennes appartenances, par exemple, écoutez, la nation, je ne veux pas dire du mal de la nation, mais quand même c'était une drôle de mère, puisque cette mère demandait la vie des gens, au cours de guerres successives, 70, 14, 39, elle allait mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Et par conséquent, la nation faisait des citoyens des condamnés à mort virtuels. Vous voyez, bon. Que la nation disparaisse au profit de l'Europe, quel soulagement. Parce que finalement, l'Europe ne demandera jamais la vie des gens par idéologie de l'Europe. Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, là, qu'il y ait disparition de certaines appartenances, c'est réellement un progrès, vous voyez. Alors le problème, évidemment, c'est que l'individu, ne pouvant pas vivre tout seul, bien entendu, cherche partout des appartenances.
Alors, si ce n'était pas mieux avant, Michel Serres, c'est pas forcément mieux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rêver d'un mieux demain?
Alors ça, demain sera surtout ce qu'on en fera. Et si vous me demandez ce que sera demain, je vais m'arrêter de répondre et je vais vous donner l'adresse de Madame Soleil. Madame Soleil va vous le dire beaucoup mieux que je ne saurais jamais le dire. Pourquoi ? Parce qu'il est évident, et on a vu l'expérience mille fois de ça, que les gens qui disent « demain ça sera compliqué comme ça » se trompent absolument régulièrement. Ils se trompent pourquoi régulièrement ? Ben, parce que l'histoire est imprévue, est imprévisible. Il arrive des grains de sable qui font tout bifurquer, vous voyez ce que je veux dire ? Et par conséquent, on ne peut pas prévoir l'avenir, ce n'est pas possible.
Mais est-ce qu'on peut espérer un demain ce sera mieux ?
Je ne peux pas vous le dire, il n'y a que Madame Soleil qui pourrait vous le dire. Mais enfin, il y a des choses tout de même qui... Et voilà, mon livre est fait surtout pour qu'on puisse lutter contre au moins des valeurs qui nous sont arrivées. C'est-à-dire la paix, c'est-à-dire l'espérance de vie, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'hygiène, c'est-à-dire l'enseignement, etc. Qu'on puisse lutter contre des valeurs que nous avons acquises et qui sont parmi les plus précieuses du monde. Parlons par exemple de la paix. Il n'y a pas de doute que quand on est dans un monde où il y a 5% d'années de paix, c'est un monde infernal, n'est-ce pas ? Et nous sommes en train peut-être de nous en délivrer. Mmh. Et par conséquent, c'est un espoir considérable. Quand on voit la courbe des morts par violence et terrorisme baisser sans arrêt, on ne peut qu'espérer que ça continue et de léguer à nos successeurs cette valeur-là. Vous voyez, voilà un exemple.
Donc c'est plutôt l'éloge de maintenant. Non plus.
Je n'ai pas dit que le monde était bon, je répète ça.
Je suis d'accord, oui. Mais relativement.
Oui, relativement par rapport à autrefois, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors évidemment, il y a des éléments qui sont moins bons, je l'ai dit tout à l'heure sur la solitude, etc. Mais surtout, un des problèmes d'aujourd'hui, je crois, c'est que le monde a basculé, n'est-ce pas ? Le monde s'est transformé vraiment de façon décisive, mais nous vivons sous des institutions qui ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Nous vivons sous des institutions très vieillies, et l'écart se creuse de plus en plus entre la réalité du monde tel qu'il a basculé et la conservation d'institutions qui n'ont pas bougé. Alors là, on se prépare sans doute à des transformations cruelles. C'est-à-dire, il faudra bien changer d'institution qui soit à peu près en harmonie avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et ça va être sans doute une difficulté majeure de demain.
Vous attendez l'année 2018 avec impatience, Michel Serres ?
Écoutez, quand on a 87 ans, on n'attend pas forcément l'avenir avec impatience. Oui. L'essentiel pour moi, c'est aujourd'hui, ma chère. C'est aujourd'hui, en ce moment, que je vous parle, etc., qui fait peut-être un peu froid, etc., qu'on est quand même bien au chaud, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Michel Serres.
Avec plaisir.
Ainsi se termine cette rencontre avec Michel Serres, qui m'avait reçu chez lui à la sortie de son livre intitulé « C'était mieux avant » aux éditions du Pommier. Mais de vous à moi, Michel Serres, c'était vraiment mieux avant quand vous étiez vivant et immortel.
Littérature sans frontières.